Mais au fait, elle est où Sabine?
Je suis dans la Normandie, Jamy.
Oh bah non, on dit en Normandie.
Non, je t'assure, dans la Normandie. Figure-toi que la France est pleine de trous, des carrières, des champignonnières, des marnières, des mines, des tunnels. Pouf, un vrai gruyère.
Allez Marcel, en Normandie, on va creuser le sujet. Ça tombe bien, j'ai un petit creux.
Je suis là, la petite voix.
Dans le trou?
En bas. Tout en bas. Enfin, au fond du trou.
Mais qu'est-ce que tu fais? Faut pas descendre là-dedans toute seule, c'est super dangereux.
Nous allons visiter une marnière. Tu vas voir, c'est très très beau. Bon, je peux aller me promener par où?
Faut aller par ici, y a pas de danger, c'est sécurisé.
Bon bah, à tout à l'heure.
Ouais, je vais par là.
Nous sommes ici en Normandie, dans le département de l'Eure, plus précisément sous le département, à 20 mètres de profondeur. Alors une marnière, c'est une exploitation généralement souterraine de laquelle les agriculteurs extrayaient une craie marneuse. Cette craie était répandue dans les champs pour réduire l'acidité du sol et favoriser les cultures. Ce que l'on voit en blanc, c'est la craie marneuse et là, regardez, en tas bien rangé, le silex dont on n'avait pas besoin. Les marnières sont une spécialité normande. La région en compterait 140 à 150 000. Aujourd'hui, elles ne sont plus utilisées. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours où elles sont. Théoriquement, les agriculteurs devaient déclarer leurs marnières aux autorités. Seulement, ils ne l'ont pas toujours fait ou bien les archives ont été perdues. Bref, au fil du temps, on a fini par oublier l'emplacement des cavités, voire leur existence. Et c'est là que les problèmes commencent. On remonte, vous allez comprendre.
Voilà, retour en surface pour découvrir, regardez, qu'une maison a été construite au-dessus de la marnière. Et oui, quand elle a acheté ce terrain, la famille qui habite ici ignorait l'existence de la marnière. Du coup, elle va être obligée de déménager, habiter au-dessus d'une grotte. C'est plutôt dangereux.
Faut faire attention où on met les pieds. Il y a des trous partout. Enfin, partout où la roche est assez tendre pour que l'homme y ait creusé des trous. En effet... En France, sous une fine couche de terre, on rencontre deux grands types de roches. D'abord, des roches tendres. Elles se sont formées au fil du temps, suite à des dépôts marins, quand une partie du territoire se trouvait noyée sous les eaux il y a des centaines de millions d'années. Aujourd'hui, ces dépôts constituent le sous-sol des grands bassins sédimentaires, ce qui représente quand même les trois quarts du territoire en jaune sur la carte. Et puis, il y a des roches dures. Classiquement, le granit, c'est dur le granit, une roche qui est remontée des entrailles de la terre. On parle de roches magmatiques. Aujourd'hui, on rencontre ces roches dans tous les grands massifs montagneux, les jeunes comme les vieux. Et puis, il y a également des roches métamorphiques et des roches volcaniques. L'homme, lui, a creusé là où c'était tendre. Il n'a pas creusé pour son plaisir. En Picardie, en Normandie, il a creusé pour extraire de la craie et la répandre sur les cultures. En Aquitaine, dans le bassin parisien, en Anjou, en Champagne, il a creusé pour extraire du calcaire ou du gypse pour construire des bâtiments. Ensuite, les cavités ont été transformées en caves ou en champignonnières. Ailleurs, dans le nord ou dans l'est par exemple, il a creusé très profondément pour atteindre des veines de charbon ou remonter du sel ou de la potasse. Et puis, en temps de guerre aussi, il a creusé des abris ou des galeries pour atteindre l'ennemi.
Benjamin, qu'est-ce qui t'arrive? T'as un trou?
Très drôle. Non, je crois que j'ai tout dit.
Eh bien non, tu as oublié les souterrains des châteaux forts. La plupart sont perdus avec leurs trésors. Les sables de guerre, elles, ont été abandonnées, leurs entrées bouchées, puis oubliées. La plupart des mines aujourd'hui arrêtées doivent normalement être surveillées et entretenues par leurs anciens propriétaires. De nombreuses carrières de calcaire servent maintenant à conserver le bon vin et le champagne, ou encore à faire pousser des salades. D'anciennes maisons troglodytes, enfin, sont aménagées pour le tourisme. Au total, on estime à 500 000 le nombre de cavités creusées par l'homme à travers toute la France. Avec le temps, certaines sont devenues dangereuses. En 1961, c'est une ancienne carrière de craie qui s'effondre à Clamart, engloutissant 6 rues d'un seul coup. Bilan, 21 morts, 45 blessés.
Bon, maintenant, je vous présente Pauline et Jean-Luc, qui sont donc les propriétaires de la maison construite au-dessus de la marnière. Pauline, c'est vous qui avez découvert l'existence de cette cavité complètement par hasard.
Oui, un jour en allant étendre mon linge, je suis tombée sur un petit trou de rien du tout. Et le lendemain, ce petit trou faisait 2,50 m.
Oh, voilà.
Et au départ, on s'est dit que c'est un puits d'eau. Mmh. Et finalement, non, on a su que c'était un puits de marnière.
C'est en faisant venir des professionnels que vous avez découvert qu'il y avait vraiment un très gros trou. Mais quand vous avez acheté le terrain et que vous avez obtenu le permis de construire la maison, vous n'avez pas su à ce moment-là qu'il y avait un aussi gros trou en dessous ?
Mais non, il y avait des archives, mais on n'a pas su et on a eu l'autorisation de construire. Malgré la présence de ces archives qui répertoriaient la cavité.
Donc la marnière avait bien été déclarée, mais l'archive a été soit perdue, soit pas retrouvée, soit pas consultée.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Oui. Alors maintenant, pour vous, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous allez faire?
Alors on a fait une demande d'expropriation. Cette demande d'expropriation devrait aboutir cette année.
D'accord, donc là, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est l'État qui va vous rembourser une partie des sommes que vous avez versées. Parce que cette maison, Jamy, est sous le coup d'un arrêté de péril, parce qu'il y a un risque d'effondrement.
Une marnière se présente de la façon suivante. Au départ, l'agriculteur creusait un puits pour trouver de la craie. Quand il atteignait la couche de craie, il construisait une galerie à partir de laquelle il exploitait la roche. Alors que risque-t-on aujourd'hui? Eh bien, que le ciel s'effondre sous nos pieds.
Oh, tu veux dire que le ciel nous tombe sur la tête, Jamy?
Non, le ciel, c'est le plafond de la cavité. Quand l'exploitation cessait, l'agriculteur rebouchait le puits. Seulement, parfois, le conduit n'était pas remblayé sur toute sa hauteur. L'agriculteur rebouchait avec des madriers et de la terre. Seulement, on l'a vu, ces bouchons vieillissent très mal. Mais il n'y a plus de pluie. Avec le temps, et surtout le mauvais temps, la pluie qui s'infiltre, le plafond de la cavité, le ciel, peut s'effondrer. Bien sûr, ce phénomène ne se produit pas du jour au lendemain. Progressivement, des morceaux de plafond s'effondrent. Et un beau jour, c'est la surface qui s'affaisse sur plusieurs mètres. Ce jour-là, vaut mieux pas traîner dans les parages.
C'est malheureusement ce qui est arrivé à un jeune homme de 21 ans en 2001 dans l'Eure. Il a disparu englouti par l'effondrement d'une marnière devant sa maison. Dans le cas de la famille Carlo, on a estimé qu'il n'y avait pas de risque immédiat. Voilà pourquoi ils peuvent continuer d'habiter leur maison avant de déménager. Ce qui ne devrait heureusement plus tarder. La marnière ayant été reconnue comme une cause de catastrophe naturelle, c'est ce qui permet aux Carlo d'être indemnisés par l'État. Plus de 120 familles seraient dans des situations aussi éprouvantes en Normandie. Aujourd'hui, on ne creuse plus de marnières, mais il y en a beaucoup dont on a perdu la trace, tout comme de très nombreuses autres cavités à travers la France. Alors, afin de mieux connaître les risques du sous-sol, un inventaire national a été confié au Bureau de recherche géologique et minière. À partir d'archives et de témoignages, le BRGM doit répertorier toutes les excavations dans 35 départements. Ces cartes seront remises aux préfectures et seront aussi accessibles à tous.
En tant que particulier, vous pouvez utiliser l'inventaire que nous réalisons afin de savoir si sous votre maison ou si sous un terrain que vous allez acheter, il y a des cavités ou il n'y en a pas. Pour cela, il suffit de vous rendre dans votre mairie, voir s'il y a des cartes qui ont été réalisées, basées sur les inventaires qui ont été transmises à la mairie, ou alors vous pouvez aller directement voir sur le site internet où sont recensés les travaux qui ont été réalisés dans le cadre des inventaires.
Toujours assez précises, ces données doivent être complétées au cas par cas par des études localisant l'emplacement de ces cavités.
Après enquête, l'inventaire du BRGM signale l'existence d'une marnière sous cette parcelle. Alors pour en avoir le cœur net, il y a une équipe de géophysiciens est venue sur place analyser le sous-sol depuis la surface. Et ils vont utiliser la technique des ondes sismiques. Dans le principe, voilà comment ça fonctionne. On commence par projeter sur le sol une masse de 200 kg. Attention, feu. Hop là. Le choc provoque une série d'ondes qui se propagent en surface mais aussi en sous-sol, un peu comme si on jetait un caillou dans une mare. Les ondes sont ensuite captées par ce qu'on appelle des géophones. On en compte 48 dispersés sur toute la parcelle. Et maintenant, lecture des résultats. Allez hop, c'est parti. Pour comprendre ce qui se passe depuis cet appareil, on va recommencer l'opération. Voilà, on voit apparaître les 48 courbes et ici en rouge, c'est le point d'impact, c'est le choc. Alors Adnan, dis-moi si je me trompe. Les ondes vont traverser les différentes couches géologiques qui composent le sous-sol. À chacune de ces couches, certaines ondes vont continuer à descendre, tandis que d'autres vont rebondir, elles vont être réfléchies et remonter vers la surface, vers les géophones. Mais qu'est-ce qui se passe si les ondes rencontrent une cavité, un trou ?
Les ondes, quand on va passer sur la cavité, elles seront absorbées par la cavité. Donc, il n'y a rien qui va monter en surface.
D'accord.
Donc, sur les images qu'on va traiter...
Sur ces graphiques qu'on va obtenir
tout à fait,
après,
voilà, après le traitement de l'analyse, on va voir le phénomène que dans cette partie où il existe la cavité, on n'aura pas des réflexions continues.
D'accord. Autrement dit, mieux vaut éviter sur cette parcelle de construire sa maison juste au-dessus du trou.
On peut aussi utiliser une autre technique, la microgravimétrie. Ce gravimètre mesure les variations de la pesanteur au-dessus du trou. Et oui, quand il y a du vide dans le sol, l'attraction terrestre est très légèrement plus faible, mais ça suffit pour révéler la présence d'une cavité. Toutes ces techniques évitent désormais de construire sur des trous.
Jamy, devine où je suis.
Bah, dans la Normandie.
Bah non, justement, je descends dans Paris. Autre type de trou, cette fois-ci nous n'allons pas visiter une marnière, mais une carrière de calcaire. Tu vas voir, c'est très impressionnant.
Ok, on arrive. Allez Marcel, à Paris.
Bon, nous sommes quelque part sous le 5e arrondissement, à 18,99 mètres de profondeur. Précis comme information, c'est écrit.
Ah Sabine, tu es là?
Bah oui.
Eh bien, on y va.
Allez, c'est parti. Bon alors évidemment, il est interdit de se promener ici sans une autorisation spéciale. Et surtout pas question de se déplacer seul, autrement on risquerait de se perdre. Bon, la petite voix,
oui.
Arrête de traîner, rejoins-nous.
Attends.
C'est sûr que c'est pas vrai.
Mais où est-ce que vous... Attendez-moi là, soyez sympa. Oh, où est-ce que vous êtes?
Vous, Christian, vous êtes responsable de la surveillance de cette carrière. On sait que c'est l'une des plus anciennes de Paris en fait.
Ah oui, elle date du 13e siècle.
Comment on sait ça?
Parce qu'on a retrouvé les actes notariés des carrières.
Donc qui date de 1260. D'accord. Les blocs de calcaire extraits de cette carrière ont servi à construire les premières maisons en pierre de Paris, celles qui remplaçaient les maisons de bois. Et puis on retrouve également ce calcaire dans quelques-uns des plus beaux monuments de la capitale.
Bah le voilà ton calcaire! On le retrouve au Palais du Louvre ou encore sur les colonnes de Notre-Dame, par exemple.
Voilà comment on travaillait à l'époque. On creusait la galerie du bas vers le haut. À chaque nouveau banc de calcaire, on plaçait des coins métalliques dans ce qu'on appelle la ligne de fracture. On faisait tomber les blocs de calcaire, on les taillait sur place et on laissait les gravats s'amonceler sur le fond de la carrière. Ce qui vous explique qu'aujourd'hui, c'est un petit peu bas de plafond, alors que le plancher de la galerie se trouve à 6 mètres de profondeur. Bon, allez, on continue. Par mesure de sécurité, pour éviter que le ciel, c'est-à-dire le plafond de la galerie, ne s'effondre, les carrières n'ont pas retiré tous les blocs de calcaire. Ils ont laissé en place ce qu'on appelle des piliers tournés. Regardez celui-ci, il est très très beau. Et c'est pas tout, venez avec moi.
Attends Sabine, attends, j'arrive.
Dans les très grandes chambres d'exploitation, entre les piliers tournés, les carriers ont ajouté des calabras. Une calabra, c'est une colonne, regardez, dont le sommet est généralement composé de pierres tendres. De cette manière, quand le ciel de la galerie menaçait de tomber, les pierres tendres se fracturaient, comme ici, regardez, et les ouvriers avaient le temps d'évacuer la zone. Aujourd'hui, heureusement, l'ensemble a été consolidé. Ouf.
Là, il faut revenir plusieurs siècles en arrière. Au Moyen-Âge, Paris ne s'étendait guère au-delà de l'île de la Cité. Ridicule par rapport aux limites actuelles. Pour trouver des matériaux de construction, les carriers creusaient au sud de la Seine pour extraire du calcaire et au nord pour extraire du gypse qui entre dans la fabrication du plâtre. Le plâtre qui, à partir du XVIIe siècle, va servir à enduire les façades de bois pour éviter les incendies. À l'époque, donc, on creusait dans des secteurs qu'on estimait suffisamment éloignés de la ville pour qu'un jour ça pose des problèmes. Évidemment, Personne n'imaginait jusqu'où grandirait la ville. Dommage, car dès le XVIIIe siècle, les habitations vont se retrouver au-dessus des carrières.
Ah bah ça fait du bien quand ça s'arrête, hein.
Revenons à nos trous. Ce sont les carrières de gypse qui posent le plus de problèmes car c'est une roche beaucoup plus friable et soluble que le calcaire. Quelques-unes sont encore en service en banlieue parisienne. Désormais, elles sont remblayées lorsqu'on les ferme. Mais il n'y a pas que sous Paris qu'on a plein de trous. Beaucoup de grandes villes se sont construites à partir du calcaire de leur sous-sol.
Dites donc les amis, avec toutes ces villes construites sur des carrières, c'est-à-dire sur des trous en somme, il n'y aurait pas, comme qui dirait, un risque d'effondrement?
En fait, les plafonds reposent entièrement sur les piliers qui ont été laissés en place par les carrières. Vous savez, les fameux piliers tournés sur lesquels le poids est réparti de façon très régulière. Comme le poids de cette poutre qui est réparti sur trois balances. L'ennui, c'est que ces piliers n'ont pas été conçus pour résister à l'épreuve du temps. Et il arrive que certains d'entre eux cèdent. Pour autant, le plafond ne s'écroule pas. Simplement, son poids est réparti sur un nombre moins important de piliers. Comme cette poutre, si je retire une balance, son poids n'est plus réparti que sur deux balances qui encaissent chacune une charge plus importante. Alors certains piliers vont pouvoir résister à cette surcharge, d'autres non. Et là, c'est l'effet boule de neige. Les piliers vont tomber les uns après les autres, et quand il n'y en a plus, eh bien c'est le plafond qui s'effondre, en général, de façon très brutale. Heureusement, la plupart des carrières ont été renforcées. Enfin, la plupart, pas toutes.
C'est bon, Jamy, inutile de paniquer, car à partir du XVIe siècle, pour éviter les risques d'effondrement, les carrières mettent au point une nouvelle technique d'exploitation, la hague-bourrage. Alors cette fois-ci, fini les piliers tournés, on extrait tous les blocs de calcaire. À leur place, on empile soigneusement les déblais jusqu'au ciel de la carrière. Ça, c'est le bourrage. Et parfois, regardez de ce côté-ci, pour éviter que le bourrage ne coule dans les galeries de circulation, on monte devant un mur de pierre. Ça, c'est la hague et ça donne un décor qui est plutôt joli.
Pourtant, ça ne suffit pas car les remblais se tassent et si le ciel de la carrière lâche, cela ne provoque pas un effondrement mais un affaissement. Des affaissements, il y en a aussi beaucoup dans les bassins miniers du Nord et de l'Est. La Lorraine, par exemple, est parcourue de 60 000 km de galeries datant de l'exploitation du sous-sol. Une fois arrêtées, les mines se remplissent d'eau et se dégradent, ce qui provoque d'importants dégâts en surface. Les maisons se lézardent et leurs occupants sont parfois obligés de déménager. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement sous la terre, Jamy?
Cette fois, la rupture se produit à des centaines de mètres de profondeur et elle s'étend sur des centaines de mètres carrés. À la différence d'un effondrement, tout le plafond ne suit pas d'un bloc. Une couche seulement s'écroule au sol. En surface, on ne ressent rien. Seulement, avec le temps, le plafond va à nouveau s'écrouler par couches successives. Et les matériaux qui s'accumulent au sol, de façon chaotique, vont même finir par bloquer la chute du plafond. En surface, on ne ressent toujours rien, mais ça ne saurait tarder. Sous l'effet de la pression de la roche qui se trouve au-dessus, les matériaux vont se tasser, se réorganiser. Et en surface, le sol va s'incurver, s'affaisser. Les bâtiments ne résistent pas à ce phénomène. Seulement, il est tellement lent que les populations vont pouvoir s'en rendre compte et évacuer avant que ça ne devienne trop grave.
À Paris, avec la multiplication des habitations, il a fallu très vite prendre d'importantes mesures. Allez, on y retourne. Mais cette fois-ci, nous allons découvrir un paysage légèrement différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Ah, bonjour Thierry!
Bonjour Sabine.
Un petit peu de lumière, super, merci beaucoup. Pour moi, c'est par où?
C'est par là.
C'est par là, on y va. Au XVIIIe siècle, après une série d'accidents graves, Louis XVI ordonne la création de l'IGC, l'Inspection Générale des Carrières. Et depuis cette date, eh bien, les brigades de l'IGC patrouillent sous terre pour repérer les zones à risque et interviennent partout où c'est nécessaire. Ah ben c'est par là. Enfin, je crois.
Oh Sabine, regarde, il y a des inscriptions, c'est quoi ça?
Oh là là, tu vois, ouais. C'est une signature. J'ai comme Guillaumeau, Charles Axel Guillaumeau. C'était le premier patron de l'IGC, un ingénieur des mines. 1783, c'est la date d'un chantier de consolidation qu'il a entrepris à l'époque. C'est mouvant, non? Exemple de consolidation, voici un pilier maçonné. Maçonné, ça veut dire construit avec une sorte de ciment. Il sert à soutenir un immeuble qui se trouve en surface.
Waouh, bah dis donc, j'espère que c'est solide, hein. T'as vu l'immeuble?
Bien sûr que c'est solide, puisque ce pilier descend dans la terre jusqu'au plancher de la galerie. Souvenez-vous, les carrières ont été partiellement remblayées. Et ce n'est pas tout, on continue. L'IGC a également construit tout un réseau de galeries, des galeries dites de surveillance. Et là, vous allez voir, c'est un véritable dédale. Ici, nous avons ce que l'on appelle un trou de visée, un trou qui nous permet de vérifier l'épaisseur du mur de la galerie. Il y a bien un mètre à peu près. Et ce que l'on aperçoit de l'autre côté, c'est une ancienne chambre d'exploitation qui apparemment est comblée pleine de cailloux. En cas de problème, il suffit de percer une ouverture dans ce mur pour aller voir ce qu'il s'y passe. Et si ces murs sont aussi épais, Jamy, c'est aussi pour soutenir la chaussée qui se trouve juste au-dessus de nos têtes.
Oh là là, on a un peu de mal à s'y retrouver dans toutes ces galeries. Alors reprenons. Aujourd'hui, l'inspection générale des carrières surveille et consolide le domaine public. C'est-à-dire, c'est vrai, au début, il lui est arrivé de placer des piliers sous des immeubles privés et de combler les espaces vides. Alors, pour consolider le domaine public, qui s'étend essentiellement à la plan des rues, l'IGC a comblé la plupart des carrières qui se trouvaient sous ces rues, en prenant soin, bien sûr, de construire des galeries de surveillance comme celle dans laquelle circulait Sabine il y a quelques instants. L'IGC a effectué ce travail partout où cela lui semblait nécessaire. Seulement, comme les carrières n'ont pas été toutes déclarées, eh bien, l'IGC a aussi creusé des galeries de recherche comme celle-ci pour s'assurer qu'entre ces deux carrières déclarées, il ne s'en cachait pas une clandestine.
Ouh, Sabine, t'es où? Eh, moi, je suis rue d'Assas. Et toi, t'es où?
Moi aussi, la petite voix, je suis rue d'Assas. Assas avec une faute d'orthographe. Il manque un S, regardez, comme quoi. Ça arrive à tout le monde. Bon alors, de ce côté-ci, nous avons une galerie de surveillance soigneusement maçonnée. Et puis soudain, on quitte la carrière pour entrer dans une galerie de recherche. Une galerie, cette fois-ci, taillée dans la masse. Au total, galerie de surveillance plus galerie de recherche, l'IGC dispose d'un réseau d'environ 350 km. Vous vous rendez compte, 350 km? Il y a de quoi se perdre, hein?
Sabine, viens voir! J'ai trouvé les catacombes! Elles datent de 1785. À cette époque, les cimetières parisiens étant devenus trop petits, l'IGC transforme une ancienne carrière en ossuaire. L'exploitation des carrières sous Paris prend fin au 19e siècle et au 20e siècle en banlieue. Aujourd'hui, carrières et galeries de l'IGC sont interdites au public, mais ça n'empêche pas certains de s'y promener.
Il est arrivé déjà des accidents, des fractures, des gens qui tombent d'un puits. On a eu une fracture de bassin, on a eu des gens qui se sont fait brûler par une inflammation d'une poche de gaz parce qu'ils avaient un éclairage à l'acétylène. Et donc il y a eu quelques gens qui se sont perdus également. Donc on est obligé de faire une petite recherche.
Incroyable, Jamy. Je sors des carrières, je remonte de quelques mètres et là, je tombe sur quoi? Le métro souterrain. Autrement dit, entre les carrières et la surface, on a trouvé le moyen de creuser de nouvelles galeries. Seulement, attention, chacune des lignes passant au-dessus d'une carrière a été consolidée. Comment? Par des piliers. Toujours des piliers, encore des piliers.
Regardez, ils sont là, les piliers qui soutiennent le métro, à l'aplomb des voies, dans les carrières. Et ce n'est pas tout. Paris est un gigantesque chantier où les immeubles poussent comme des champignons. Alors lorsque les plans ou les sondages révèlent la présence de cavités, comme ici, eh bien, il y a deux solutions. Ou bien on coule des piliers, comme ceci, sur lesquels on va construire un radier, puis les différents étages de l'immeuble. Ou bien on isole le secteur de la cavité qui va se retrouver sous l'immeuble en travaux. Puis, on creuse un puits dans lequel on va couler du béton jusqu'à remplir la cavité. Et lorsque la cavité est pleine, eh bien on construit l'immeuble. Et là, c'est du solide.
Lors de la construction de la station Magenta du RER E, la SNCF a dû combler entièrement une immense cavité due à la dissolution du gypse. Partout où il y a des trous, la prévention est essentielle.
Dans toute grande ville, il est extrêmement important de prendre en compte dès le départ le risque qui peut être lié à des cavités qui existent dans le sous-sol, dès la construction de nouveaux bâtiments, de nouvelles voiries, de nouveaux parcs, pour permettre d'éviter ensuite tout accident qui pourrait avoir des conséquences dramatiques.
Actuellement, des organismes de surveillance comparables à l'IGC se mettent en place dans quelques régions et grandes villes de France, et c'est tant mieux.
Ah ! Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Sabine, faut partir d'ici, on s'enfonce !
Dégonflé !
Comment ça, dégonflé ?
L'un des pneus du camion est dégonflé, Jamy, c'est pas grave, on vient de crever.
Ah ah, ça va amuser la galerie. Oh !